Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroque.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Quelques jours après la Comédie du Livre de Montpellier, alors que le monde de l'édition est en ébullition, j'ai invité une éditrice, Marion Mazoric. Elle a fondé et dirige les éditions du Diable Vauvert. Marion Mazoric, bonjour.
Bonjour.
Une précision, chers auditeurs, chères auditrices, il m'arrive d'exploiter dans un article pour Locaux, L-O-2-K-O, les propos tenus par un de mes invités à Racontez-nous votre Montpellier. Cette fois, Locaux a eu la primeur de cette interview. Je vous recommande ce web magazine orienté culture et société. Avant que nous abordions globalement la mobilisation des auteurs, des autrices, des éditeurs, des éditrices, donnez-nous des nouvelles du Diable Vauvert. Dès sa création, en 2010, vous vous êtes installé dans une ancienne école qui appartient à la commune de Vauvert. Lors des élections municipales, le candidat Rassemblement National, Nicolas Maisonnet, a pris la tête de la ville. Depuis, le nouveau maire a annulé une exposition de photos de Sylvain Brineau et supprimé le soutien au festival de jazz. Pour ce qui vous concerne, en tant que locataire, êtes-vous inquiète ?
Non, écoutez, pas spécialement. On a remis les choses au point parce qu'il y a eu effectivement des propos de la mairie qui étaient tout à fait mensongers et qui disaient qu'on vivait, nous, les éditions Diable Vauvert et l'association des avocats du diable qu'on a créée et qui est hébergée dans les mêmes locaux contre loyer, qu'on était hébergé quasi gratuitement et qu'on bénéficiait de subventions. Donc on a remis les choses au point et la mairie n'y est pas revenue, puisque c'est vrai, c'est-à-dire qu'on paye... Les éditions Diable Vauvert, on a un bail commercial qui est tout à fait protecteur, hein, comme on sait, c'est un bail 369, ceux qui connaissent savent que c'est des baux qui sont, on ne peut pas défaire comme ça. Et quant à l'association des avocats du diable, elle paye un loyer, vous voyez, de presque 6000 euros par an et elle touche une subvention de 2000 euros par an, donc rien de déséquilibré et elle organise beaucoup d'animations. Et je pense qu'on n'est pas menacé, en tout cas j'espère, en tout cas notre action, l'action de l'association sur le territoire, la résidence d'écrivain, c'est un lieu quasi culte, qui est très très beau, qui est très fréquenté, enfin je vois pas que qu'on vienne, on est très apprécié par les lecteurs et les gens de Camargue. On publie en plus des textes taurins qui sont destinés à tous les lecteurs. Différence entre les électeurs et le maire de Vauvert, et je pense que les habitants ils sont très attachés à nous. Alors pour ce qui est de la maison d'édition, la maison d'édition elle évolue sur un marché qui est national, qui est extrêmement compliqué comme tout le monde le sait, qui est très mauvais depuis l'année dernière. Nous on a la chance en 2026 de démarrer vraiment une belle année avec un programme très très fort, donc je pense que ça va être une grande année. On va recevoir quelques prix littéraires là qui sont. On a déjà reçu un prix de poésie pour James Noël. Enfin, c'est une année qui s'annonce très très bien. Mais vous voyez, quand on est indépendant, c'est un petit peu chaque année après l'autre. L'année dernière, l'année 25, a été très difficile. Mais je dirais que c'est le lot depuis pour un indépendant depuis 26 ans maintenant. On s'est créé en 2000 et je crois qu'il y a eu beaucoup plus d'années difficiles que faciles. Mais du coup, on se sent un peu immortel et puis. Et puis on a un fonds qui tourne très bien, qui nous protège, parce que d'année en année, le fonds de livres qu'on a publiés depuis le début représente maintenant presque 50% de nos ventes. Et ça, c'est la meilleure
assurance d'avenir.
C'est la meilleure force en fait qu'à la maison.
Très bien.
Donc voilà, on est plutôt optimiste.
Voilà de bonnes nouvelles, puis on verra ce qu'il en est dans les mois qui viennent. Alors revenons-en à la situation nationale. La mobilisation en réaction à l'éviction d'Olivier Nora des éditions Grasset est sans précédent. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
Vous voyez, c'est un petit peu comme la pétition qui a eu lieu, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand le maire a annulé l'exposition de Sylvain Brineau parce qu'il avait des convictions LFI, voire qu'il avait tenu des propos LFistes sur son sur son journal sur Facebook. Il y a eu immédiatement une réaction massive de citoyens. On a fait un appel et il y a bientôt 4000 signataires. Et ça a été massif, c'est-à-dire que les gens ont pris conscience qu'on pouvait pratiquer des actes de censure sur les opinions d'un artiste de façon complètement arbitraire et ne l'acceptent pas. On est en France, on est un pays qui s'est construit dans liberté, égalité et fraternité, et ces valeurs-là, elles sont quand même tout à fait fondamentales.
Donc,
ce qui s'est passé à Vauvert, ça s'est passé, je pense, à Paris, quand tout d'un coup, une profession d'auteur qui, pour le coup, on n'est pas face à une maison d'extrême gauche, ni même révolutionnaire, enfin voilà, on est une maison, une des plus établies, une des plus importantes.
Et la politique éditoriale pluraliste.
Tout à fait, les éditions Grasset, c'est quand même un monument, un patrimoine, c'est un éditeur qui a 200 ans, qui a publié toutes sortes d'écrivains de toutes opinions, qui a un catalogue très très large. C'est d'ailleurs une des choses qu'on pourrait lui reprocher, de manquer un petit peu de personnalité, mais bon, voilà, c'est surtout une maison qui a été récompensée par de multiples prix. Et donc je pense que pour les gens de l'édition du livre, c'était des patrimoines intouchables. Et la violence avec laquelle on licencie tout d'un coup un directeur littéraire, un directeur éditorial qui est là depuis presque 30 ans, Olivier Nora, moi j'ai très bien connu Jean-Claude Fasquelle qui était actionnaire du Diable Vauvert et qui nous a mis le pied à l'étrier quand la transition Jean-Claude Fasquelle-Olivier Nora, elle s'est très très bien passée. Olivier Nora est un grand éditeur, je le connais personnellement bien, on a quasi le même âge et c'est une grande figure de l'édition française. Donc, si vous voulez, il faut savoir que les auteurs, quand ils rejoignent une maison, c'est beaucoup pour la personnalité de l'éditeur. C'est pas l'actionnaire qui les motive. C'est évidemment les équipes qui travaillent. Et pas seulement l'éditeur, mais une ambiance, une âme et des équipes, attachés de presse, direction commerciale. Donc, on vire pas comme ça un directeur littéraire.
Parce donc, que ça a constitué un choc.
Oui. Signe avec les auteurs.
Donc, ça a constitué un choc particulièrement fort, quoi.
Un choc très violent. Je pense que beaucoup de gens, quelle que soit leur identité politique, leur faveur politique, ont pris conscience que là, on rigolait plus, quoi, que c'était pas un actionnaire comme un autre, que c'était vraiment quelqu'un qui avait décidé d'utiliser son patrimoine, les sociétés qu'il a acquises. Alors, il a tout acquis dans les médias, l'édition, la presse, etc., pour peser sur l'idéologie française. Il l'a dit, d'ailleurs, il l'a dit comme
bien
ça. Hein,
il l'a dit, Vincent Bolloré, bien sûr.
Donc, ça a été je pense que ça a été un choc d'autant plus violent que beaucoup de gens ne voulaient pas se rendre compte de ce qui se passait dans l'édition et dans la communication, d'ailleurs. Hein, ça ne concerne pas que l'édition, c'est-à-dire un énorme mouvement de concentration qui a été suivi. Bah, ensuite, quand tout est si concentré, c'est très facile d'acquérir avec quelques milliards des pans entiers de l'édition française. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que Bolloré, il contrôle les manuels scolaires, une grosse, grosse, grosse partie des manuels scolaires, par exemple. Et ça veut dire qu'il peut peser sur la nature de... Alors, par exemple, on voit très bien en France à quel point il est important d'apprendre l'histoire coloniale française. Sinon, on ne comprend absolument pas d'où vient l'immigration, comment sont les équilibres internationaux et qu'est-ce qui se passe chez nous et pourquoi est-ce que les Français sont pas d'origine blanche, catholique, etc. Une des spécialités de l'extrême droite, c'est de réécrire l'histoire. On voit bien tout l'intérêt qu'un Bolloré peut avoir à posséder des maisons qui maîtrisent la réalisation des manuels scolaires, mais évidemment la littérature, etc. Et donc il y a eu une prise de conscience assez brutale. Et puis je crois que ça donne aussi une prise de conscience aux auteurs, qui est qu'il y a un déséquilibre réel dans les contrats d'auteur entre les éditeurs et les auteurs.
On va y venir, là, oui, bien sûr. Donc c'est bien, moi, ça a fonctionné comme un coup de projecteur sur une situation, bien sûr, qui ne datait pas de la veille. Et un autre aspect des choses, me semble-t-il, qui est peu connu, c'est la constitution de filières complètes du livre qui vont jusqu'à la commercialisation finale. Je pense au relais dans les gares qui appartiennent à Vincent Bolloré. Est-ce que ça aussi, c'est un phénomène extrêmement grave dont il faut avoir confiance si on veut avoir une vue complète de la situation du livre en France?
Alors ça s'est construit dans les 10-20 dernières années, cette concentration. Et elle est effectivement extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que Bon, déjà, on avait vu le capital industriel rentrer dans l'édition à travers Lagardère, par exemple, ou Editis avec Vivendi. Mais au moins, c'était un capital industriel qui n'était pas...
C'était il y a 15 ou 20 ans, ça, ce phénomène.
20 ans. Et c'était un capital industriel qui n'avait pas de volonté, comme Bolloré, de façonner idéologiquement les catalogues et les médias. Mais non, la grande nouveauté, c'est la mainmise sur les médias français par à peu près 5 oligarques qui ensuite, Bolloré est là pour le montrer, ont ensuite, Mekretinsky également et d'autres, ont ensuite décliné horizontalement et verticalement leur possession, c'est-à-dire décider de maîtriser à la fois la chaîne de production des livres, mais de l'opinion, si vous voulez, de ce qui fabrique l'opinion, mais surtout les médias, c'est-à-dire la chaîne de prescription et puis la chaîne de vente. Et vous savez, Sterrin, qui est aussi un milliardaire, qui voulait, alors il paraît qu'il a moins de moyens financiers aujourd'hui, mais enfin un de ses projets. Et lui aussi, si vous voulait peser idéologiquement, l'humanité avait fait un travail de documentation de ses motivations qui était très important. Et donc, on découvrait quelqu'un qui voulait absolument peser idéologiquement en rachetant des médias et etc., en pesant à travers les associations. Donc, vous voyez, il couvre toute la chaîne, mais également, il avait expliqué qu'il voulait racheter le tissu des librairies. Et c'est quelque chose que Bolloré a commencé. Et on voit bien pour la librairie indépendante, en particulier la santé de la librairie, comme serait tragique des milliardaires qui viennent acheter des librairies, non pas pour qu'elles soient rentables ou pour s'occuper, mais pour maîtriser les livres qu'on vend aux Français.
Bah, il suffit d'aller dans un relais pour comprendre le phénomène.
Mais tout à fait.
Pour voir les livres qui sont mis en valeur.
Mais alors ça quand même, il faut savoir qu'on est quelques-uns à s'être prononcés pour des mesures de régulation de la concentration. Il y a plus de 10 ans déjà, et même avant que Bolloré arrive. Et c'est bien sûr des questions qu'il aurait fallu trancher bien en amont.
Elles sont à nouveau posées, ces questions. Et alors, il y a d'autres questions qui sont posées, bon, qui font l'objet de débats depuis ces dernières semaines. C'est bon, il y a un grand nombre d'auteurs et d'autrices qui avancent des propositions pour une réorganisation majeure des relations avec les éditeurs. Alors, les éditeurs, les maisons d'édition, les patrons et pas les éditeurs qui sont au contact des auteurs. Donc il s'agit notamment de la mise en place d'une clause de conscience qui encadre l'achat d'un éditeur se traduisant par un changement brutal de la ligne éditoriale. Sont également évoqués le versement d'indemnités, comme les journalistes qui peuvent bénéficier de la clause de cession. Et également évoquer la durée des contrats, aujourd'hui très longue, 70 ans, sauf erreur, et des droits afférents. Alors toutes ces questions-là, qui étaient déjà pendantes, mais qui là sont sur la table, qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de ces revendications de nouveaux droits de la part des auteurs et autrices ?
Je pense qu'elles sont justifiées, bien évidemment. Alors déjà, ces questions, elles sont sur la table depuis bien longtemps. Moi, je me souviens, quand j'ai créé Le Diable en 2000, on avait établi des contrats avec Heyerdahl, un des auteurs qui menait une fronde des auteurs justement qui s'était donné pour nom le droit du cerf comme à l'époque du servage, et qui agissait justement pour un rééquilibrage des contrats. D'ailleurs, il y a eu un rééquilibrage des contrats, il a fallu 10 ans, mais les auteurs ont obtenu qu'on ait des contrats plus équilibrés. Et alors nous, au Diable Vauvert, ces contrats-là, on les avait élaborés il y a 20 ans, 25 ans, et ils ont été généralisés à l'édition française il y a une dizaine d'années. Donc c'est des contrats qui sont un peu plus transparents et qui donnent un peu plus de contraintes de l'éditeur pour informer l'auteur. Mais ce qui est vrai, c'est que le grand déséquilibre, c'est la durée. On signe en France pour une durée de 70 ans après la mort de l'auteur, c'est-à-dire la durée de la propriété littéraire artistique. Et il faut savoir que c'est dans le monde entier, les auteurs étrangers ne signent pas du tout sur cette durée-là. Et ça ne permet absolument pas, justement en cas de rachat, etc., ça ne permet absolument pas à l'auteur de reconquérir sa liberté s'il a besoin. Nous, au Diable, on fait des sessions qui peuvent être sur la durée de la propriété littéraire artistique, mais quand les auteurs le souhaitent, on prend des durées longues, par exemple avec Bordage ou Heyerdahl, des durées qui sont de 20 ans renouvelables.
Donc vous voyez, 20 ans... 70 ans pour le coup.
Parce qu'en fait, il faut considérer qu'un éditeur a besoin de temps pour construire un catalogue. Vous voyez, Le Diable a 26 ans,
son fonds a commencé vraiment à marcher et à être visible et à devenir rentable au bout de 20 ans. Donc nous, notre meilleur allié, les éditeurs, c'est le temps. Et si on perd ce patrimoine que sont nos catalogues, on n'existe plus. Donc ça, c'est très important.
Je vous coupe, parce que c'est mal connu, ça, cette idée que le devenir d'une maison d'édition indépendante comme la vôtre, il ne dépend pas simplement de la vitalité des nouvelles paritions, de l'attention à des formes nouvelles d'écriture ou autres, il dépend quand même de ce capital-là intellectuel, patrimonial, de ce que vous avez constitué au fil des années.
C'est pour ça que je plaide pour des contrats plus équilibrés qui peuvent être limités dans le temps mais sur des durées longues, que les éditeurs négocient en fonction de leur... Mais aussi, je pense que quand un auteur veut vraiment quitter une maison, on ne peut plus travailler avec lui. Vous voyez, on ne peut pas faire des livres avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. Donc de toute façon, on sait qu'un auteur peut quitter une maison. Là, la question qui se joue, c'est qu'en fait... les éditeurs n'auraient rien contre racheter les auteurs, les fonds des auteurs qui partent à Grasset. Mais tout ça se passe entre éditeurs. Et ce que les auteurs revendiquent, c'est le droit de eux reprendre leur contrat.
Oui.
Et ça, c'est une vraie question. Et moi, je fais partie des éditeurs qui ont tendance à penser que plus on rapporte la propriété des œuvres aux auteurs, et plus on se protège finalement contre sinon une concentration et un risque de basculement de l'édition dans des logiques qui sont plus du tout éditoriales, mais qui sont politiques ou commerciales ou purement financières. Et c'est pour ça que j'accueille, comme il y a 25 ans, quand les auteurs avaient créé le droit du cerf, je trouve ça bien que les auteurs se posent la question de tout d'un coup de l'identité de leur maison, etc. Mais je fais aussi partie des éditeurs qui leur rappellent qu'ils ne sont pas obligés de signer dans des majors comme Grasset, qui ont tous les inconvénients qu'ont les gros groupes, et qu'il y a des éditeurs indépendants solides, et que c'est aussi en allant se poser la question de ces éditeurs-là, et en allant travailler avec eux, qu'on contribue à rééquilibrer l'édition française. Donc, vous voyez, les auteurs peuvent aller aussi au bout de leur démarche, c'est-à-dire décider, je préfère apporter le chiffre d'affaires que je représente, les ventes que je représente, à un éditeur indépendant, parce que quelque part, il y en a assez de très bons, parce que quelque part, c'est beaucoup plus sain.
Donc, c'est en quelque sorte renouveler le contrat de confiance entre auteur et éditeur, le repenser ou le revivifier sur la base de ces... de cette confiance et de ces valeurs partagées qui ne sont pas que des valeurs financières, bien sûr. Est-ce que c'est ça qui est en jeu et que le débat actuel contribue à révéler, notamment aux yeux des lecteurs qui sont, bien sûr, ignorants des conditions dans lesquelles ça se passe? Est-ce qu'il y a cette perspective, en définitive, positive que la crise actuelle ou le chamboulement actuel peut engendrer?
C'est sûr. Tout à fait.
C'est-à-dire que bon,
tout à fait.
Parce qu'il y a bon, des raisons d'inquiétude, vous les connaissez, hein, je dirais. Bon, les études du Centre national du livre qui montrent que les Français lisent de moins en moins, que les jeunes passent 10 fois plus de temps sur leurs écrans qu'à lire des livres. Et puis une diminution, vous l'avez évoqué au début de notre entretien, du chiffre d'affaires, de la vente de livres. Donc il y a ce contexte-là qui est prégnant pour le coup et qu'il est difficile d'ignorer. Au-delà, je dirais, des questions de fond, de valeur, de liberté éditoriale qui sont mises en relief depuis ces dernières semaines.
Pour moi, c'est la première des questions. La première des questions, en fait, c'est celle des lecteurs. C'est-à-dire, on est dans un pays... Quand j'ai commencé dans la profession, il y a maintenant presque 40 ans, en fait. Et en fait, il n'y avait que 15% de non-lecteurs en France. Aujourd'hui, on est à la moitié, plus de la moitié de non-lecteurs. Et on le voit très bien dans l'inégalité de l'accès à la culture entre déjà les villes et ce qu'on appelle maintenant les périphéries, vous voyez, c'est-à-dire les régions, la France, quoi, voilà. Je le vois très bien en Camargue, qui est un territoire sinistré sur le plan culturel. Heureusement qu'on a notre culture taurine, parce que sinon, je veux dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de cinéma. Donc on a vu reculer la lecture, et surtout on a vu la lecture devenir l'apanage des populations qu'on appelle privilégiées. Bon, je ne sais pas si on peut considérer que des profs, des infirmiers, des gens comme ça sont des privilégiés, ce sont des grands lecteurs. Mais si vous voulez... Et ça nourrit le vote. Rassemblement National et le mépris pour les gens soi-disant cultivés. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens perdent le sens, perdent les mots, perdent l'orthographe, perdent la lecture recule, et ce qui recule avec elle, c'est la maîtrise du... Alors, je vais parler beaucoup du langage et des mots parce que c'est mon métier, mais c'est la maîtrise culturelle.
La compréhension et, du monde dans lequel nous vivons, peut-être tous...
La compréhension du monde dans lequel on vit, qui est de plus en plus complexe, et qui... Et donc, si vous voulez, le... Et puis de toute façon, ça nourrit l'exclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une part croissante de Français qui ont vraiment l'impression qu'ils ne comptent plus. C'est justement les Français des périphéries. Et moi, je le vois très bien. Vous savez, j'habite à Vauvert, en petite Camargue, entre, ça va de l'état des routes à l'état de la République. Moi, j'ai plus de médecins. Ça fait déjà 2 ans. On n'a plus de médecins. On est 7000 personnes sur la commune de Beauvoisin, etc. à ne plus avoir de médecins traitants. Il n'y a pas de kiné, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a plus rien de signe de la République. Donc, évidemment, la culture, l'accès à la culture, il n'y a pas de cinéma, il n'y a que dalle. Donc, si vous voulez, cette injustice flagrante-là, elle exclut quand même des dizaines de personnes d'une pratique culturelle, et de la lecture et du livre. Et c'est ça qui est grave. Alors que vraiment, le livre, c'est un objet qui est pas cher, qui est accessible à tous, que les histoires qu'il raconte, il n'y a d'ailleurs pas que la littérature, mais on peut tout apprendre dans un bouquin, c'est un format qui est pas cher, qui est facile. Bon, voilà, le livre aujourd'hui ne concerne plus que 40% de la population. Et ça, c'est gravissime. Et ça, c'est une question de démocratie. Et c'est pour ça, je pense, que vous avez tellement de gens qui se sentent humiliés, niés, inquiets, mal. Donc je pense que, par contre, la bataille pour la lecture en France, c'est quelque chose. Mais regardez ce qu'on nous présente, regardez la culture littéraire à la télévision. Je suis désolée, mais La Grande Librairie, c'est une émission bourgeoise, avec des bourgeois. Et je comprends très bien les gens qui disent « tous ces gens nous méprisent, ce sont des bourgeois ». Je le comprends très bien. La lecture, c'est pas ça. La lecture, c'est beaucoup d'autres choses, beaucoup plus populaires, etc. Et c'est jamais ce qui est mis en avant. Bref, regardez le hip-hop, tout le monde fait de la poésie en France, tout le monde connaît le hip-hop. Le hip-hop, c'est la poésie française contemporaine. Il y en a d'autres aussi, mais c'est une des grandes, en tout cas des plus populaires. Qu'est-ce qu'on fait pour donner
la place que ça mérite
pour le hip-hop? Est-ce qu'on a déjà donné un prix littéraire à Oxmo Puccino, ou je dis ça, vous voyez ce que j'ai... Donc il y a vraiment un pays à deux vitesses, et quand on n'est pas du bon côté du truc, on le sait très bien.
Eh bien voilà, merci Marion Mazoïc d'avoir élargi les perspectives que nous avons tracées et donné à comprendre, au-delà du phénomène des éditeurs et des auteurs que vous avez éclairé de votre pratique quotidienne, de ces relations tissées avec ces auteurs, de nous donner à comprendre plus largement les enjeux que vous et d'autres, et peut-être nous, avons à affronter. Merci beaucoup Marion Mazoïc.
Merci beaucoup.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sérop.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.